Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Il est circonspect, Édouard Philippe, circonspect qu'en cette période de pandémie de Covid-19, les journalistes, et notamment les journalistes politiques, puissent passer plus de 2 secondes à parler de ses relations avec le président de la République. Et pourtant, la politique, même en pleine crise inédite, ne perd jamais totalement ses droits. Des différences de vocabulaire ou d'approche, la répartition des rôles de chacun pose question, de même que la création annoncée d'un nouveau groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, rassemblant des déçus du macronisme pour plus d'écologie et plus de social. La majorité et l'exécutif sont-ils en train de se fissurer? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler pendant une demi-heure, donc pendant plus de 2 secondes, 3 invités sont en direct avec nous par téléphone car nous continuons à garder nos distances. Bruno Cotrès, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, et professeur à Sciences Po Paris. Frédéric Michaud, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des études du département Opinion d'Opinionway. Et Jérémy Marot, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes reporter au service politique de l'agence France Presse et co-auteur avec Pauline Thévenot des livres « Les apprentis de l'Élysée, grandeur et décadence de la maison Macron » et « Le kéké de la République » qui parle du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. C'est aux éditions Plon. On va peut-être commencer par la création annoncée, supposée en tout cas, de ce groupe parlementaire. Depuis ce week-end, on parle de demain pour le lancement de ce 9e groupe de l'Assemblée nationale. Jérémy Marot, qu'est-ce que c'est que cette initiative? Est-ce qu'on peut parler d'un pôle de gauche qui se cherche ou qui se chercherait d'ailleurs depuis plusieurs mois?
Ah oui, la création de ce 9e groupe, c'est en gestation depuis plusieurs mois. Ça devenait quasiment une arlésienne. On pensait que ça allait finir par arriver, mais on ne savait pas trop quand. Voilà, le timing, c'est maintenant. On a reçu une invitation presse pour une conférence demain matin à 11h. Donc, jusqu'au dernier moment, encore aujourd'hui, les tractations allaient bon train et on se demandait si ça allait se faire, mais ça semble vraiment se concrétiser. Et alors, ce serait un groupe qui regrouperait à la fois des éléments composites de la majorité, certains sont déjà partis, à peu près la moitié, d'autres seraient encore au sein de la République En Marche, environ une dizaine de marcheurs, et il y aurait la députée Delphine Bateau, l'ancienne ministre du précédent quinquennat, donc qui est écologiste.
Bruno Cotrès, est-ce que c'est, sinon une mauvaise nouvelle, du moins un problème pour la majorité ?
C'est jamais une bonne nouvelle lorsqu'il y a des tensions ou des divisions à l'intérieur d'une majorité, forcément. Et notamment, on n'avait pas jusqu'à présent passé ce cap-là. Il y avait eu déjà des départs. Hein. Il faut se rappeler que tout est parti d'une certaine manière du député Mathieu Orphelin qui avait quitté La République En Marche sur la question de l'écologie. Mais là, on a quand même quelque chose qui me semble être peut-être de l'ordre du symbole avant d'être un problème politique ou parlementaire, mais c'est effectivement plutôt une nouvelle négative au moment où Emmanuel Macron essaye de lancer des signaux que peut-être il va donner un coup de barre à gauche, en tout cas qu'il va essayer d'impulser à nouveau son mandat.
Frédéric Michaud, c'est peut-être un hasard, mais ces velléités émancipatrices arrivent après des sondages qui sont plutôt défavorables pour la majorité et l'exécutif.
Oui, mais comme ça a été dit, on voit aussi que le calendrier choisi à la fois donne le sentiment d'une rupture qui a été pendant assez longtemps différée. C'est aussi un calendrier qui est très incongru, pour ne pas dire indécent. Ça vient assez tardivement. Hein. On voit que c'est un mouvement qui est quand même impulsé par l'aile gauche de la majorité. Ça vient après la crise des Gilets jaunes, ça vient après la loi retraite, après les contestations de la loi retraite. Donc ça vient un petit peu tardivement dans l'évolution du quinquennat. Ça vient aussi de façon contracyclique. On a bien vu que le président vient d'annoncer une pause dans les réformes qui ont pu paraître des réformes de droite. Il vient de donner des gages à la gauche, le plan hôpital par exemple. Il vient de réaffirmer son attachement à la transition écologique. Et c'est le moment que choisit l'aile gauche, une partie de l'aile gauche de la majorité pour faire sécession et créer un nouveau groupe. Donc là, il y a quelque chose d'assez incongru. Alors effectivement, c'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement. C'est pas une bonne nouvelle pour l'exécutif qui a des sondages qui sont mauvais, mais qui sont mauvais depuis plusieurs mois et même plusieurs années maintenant.
Jérémy Marot, je reviens vers vous. Ça signifie aussi qu'il y a un problème de leadership et de direction chez les parlementaires La République En Marche, qui est peut-être consubstantiel au « et en même temps ». On ne sait pas exactement dans quel sens on va.
Oui, c'est symptomatique du fait de ce que certains reprochent. Et je pense notamment à Aurélien Taché, ce député du Val-d'Oise qui a annoncé ce week-end qu'il quittait La République En Marche. Et parmi les arguments avancés, il disait « on n'a pas de corpus idéologique ». En réalité, il y a ça qui joue énormément. C'est-à-dire qu'il y avait ce programme présidentiel qui agissait comme une sorte de glue en 2017-2018 pour des éléments très composites venant plutôt de la gauche, certains venant de la droite, mais qui étaient rassemblés dans ce « et en même temps » de La République En Marche. Et puis on voit qu'au fur et à mesure où ce programme présidentiel s'épuise et remis en cause, dans un moment où tout turbule après les Gilets jaunes, après cette crise-là, il n'y a plus vraiment de colonne vertébrale qui lit tout ça. Et quand il n'y a plus de colonne vertébrale, les membres ils partent dans tous les sens, tout simplement. Et pour cette sensibilité de gauche, cette sensibilité plus sociale, plus écologique, qui est nourrie de promesses depuis plusieurs mois et qui a l'impression de rien voir venir, certains choisissent la voie de l'émancipation. Ce que je trouve intéressant juste aussi, c'est que certains décident de rester au sein de la majorité pour peser. Donc on voit qu'il y a deux stratégies parallèles pour un même but recherché entre un pôle qui se structure au sein de la majorité et qui se dit « on va essayer de peser à l'intérieur » et d'autres qui sortent là en ce moment en disant « c'est à l'extérieur qu'on va arriver à faire passer nos idées ».
Bruno Cotresse, le traditionnel clivage gauche-droite est-il en train d'être réactivé ? Est-ce que La République En Marche doit en tenir compte et éventuellement faire un choix ? Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas assumer ses pertes et choisir une voie un peu plus claire ?
C'est une question qui est compliquée. Première observation, même si la mort du clivage gauche-droite a été annoncée à de très nombreuses reprises, en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, en fait, ni de 2017. Eh bien, ce clivage, il est toujours là. Il ne tient pas aux hommes et aux femmes politiques de prononcer la vie de décès ou la vie de naissance d'un clivage politique. Un clivage politique, c'est quelque chose qui vient de très, 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 très loin. C'est de l'accumulation de doctrines, de valeurs, de croyances, d'idéologies, des fois sur plusieurs siècles. Donc, le clivage gauche-droite, il est là, il est toujours là. Alors, certes, il a été remis en cause dans sa dominance, dans sa suprématie par l'autre clivage qu'Emmanuel Macron voulait incarner. Mais vous savez, on avait étudié avec certains de mes collègues la sociologie des adhérents de La République En Marche il y a un an et demi. Et nous avions observé que le clivage gauche-droite, il existait à l'intérieur de La République En Marche et nous avions identifié qu'un groupe de marcheurs, on les avait qualifiés des progressistes égalitaires qui étaient très clairement des gens qui étaient issus des rangs socialistes, très clairement. Il y avait pas mal d'anciens militants du Parti Socialiste dedans. Et donc, il y a dans La République En Marche également une coexistence de ce clivage avec l'autre clivage que Emmanuel Macron a voulu incarner. Tout à l'heure, on disait il y a plus de corps de doctrine au macronisme ou à La République En Marche. Alors là, c'est un problème qui est un peu particulier à cette formation politique qui était très cimentée autour de la personne d'Emmanuel Macron. Et d'une certaine manière, le macronisme, c'est Emmanuel Macron.
Frédéric Michaud, dans vos études d'opinion, j'imagine que vous testez, vous demandez aux gens que vous interrogez d'où ils viennent idéologiquement l'élection d'Emmanuel Macron. Vous constatez, vous, que ce clivage, il traverse La République En Marche ?
Oui, et nous l'avions déjà constaté lors de l'élection présidentielle et dans la composition de l'électorat d'Emmanuel Macron au premier tour, évidemment au deuxième tour, étant donné la configuration du second tour, c'était un électorat qui était beaucoup plus large. Mais au premier tour, on voyait bien une partie des électeurs qui provenaient de la droite, qui ne pouvaient pas voter pour François Fillon. Et puis des électeurs qui venaient de la gauche, qui venaient du PS. Vous vous souvenez qu'il y avait que le candidat Emmanuel Macron avait bénéficié de soutien, de nombreux soutiens en provenance du PS. Jean-Yves Le Drian, Manuel Valls notamment avaient appelé à voter pour lui. Donc on voyait bien la provenance de ces deux familles politiques, le centre gauche, le centre droit, dans l'électorat d'Emmanuel Macron. Ça a perduré, mais mais ce que nous avons vu lors du dernier scrutin, des élections européennes de 2019, je ne parle pas des élections municipales parce qu'elles sont atypiques et d'ailleurs elles ne sont pas encore terminées, mais lors des élections européennes de 2019, on avait vu un déplacement de l'électorat d'Emmanuel Macron vers la droite. Alors ça a eu des effets électoraux positifs. Ça a permis à Emmanuel Macron de réduire encore plus les Républicains. Ça lui a permis de solidifier son assise et de conserver, si ce n'est la première place, mais au moins la deuxième place, et donc de rester au coude à coude avec le Front National. Mais ça a eu aussi des conséquences négatives, précisément sur l'équilibre interne de la majorité. On l'a dit, l'hétérogénéité idéologique, c'est la marque de fabrique de la République en marche. La République en marche, c'est concilier les contraires, c'est le en même temps. Et donc, il y a toujours cette ligne très difficile, cet équilibre politique difficile à maintenir. Il y a toute une partie de la majorité, des députés, en provenance de la gauche notamment, qui ont le sentiment que depuis plusieurs mois, le groupe a trop penché à droite, notamment dans le cadre des différentes réformes économiques qui ont été conduites. Hein. Je pense évidemment à la réforme des retraites, qui est la réforme idéale typique de ce point de vue. Et donc, tout ça alimente l'idée qu'un rééquilibrage est nécessaire. Et ça, c'est ça l'objectif principal, je crois, qui fonde la scission et la création de ce nouveau groupe Écologie, Démocratie et Solidarité.
Jérémy Marot, on va parler chiffres pour préciser peut-être que effectivement, c'est peut-être pas une très bonne nouvelle la création de ce groupe, mais ça n'obère pas la capacité de la majorité à avoir la majorité à l'Assemblée. Il y a quand même le soutien du MoDem.
Oui, on rappelle que la majorité absolue à l'Assemblée, c'est 289 sièges pour 577 députés en tout. La République en marche a commencé le quinquennat avec 314 députés. L'étiage actuel, c'est 295. Donc on voit qu'ils sont à six éléments au-dessus de la majorité absolue. Ce nouveau groupe risque techniquement de leur faire perdre cette majorité absolue, mais c'est pas pour ça que la majorité nourrit énormément d'inquiétudes, parce qu'il y a l'apport du contingent MoDem de plus d'une quarantaine de députés. Il y a aussi les députés Agir qui sont là et qui peuvent faire l'appoint. Donc pour l'heure, est-ce que la capacité de faire passer les réformes à l'Assemblée est obérée? La réponse est techniquement non. Après, on peut toujours s'interroger sur les effets collatéraux de tout ça, et notamment sur le fait que le MoDem, son poids relatif, va augmenter au sein de la majorité. Est-ce que ça va remettre en cause certains équilibres et mettre le MoDem dans une position de force, puisque ce sera grâce au MoDem que La République En Marche pourra techniquement faire passer ses lois?
Bruno Cotterêts, on parlait il y a quelques instants des difficultés qu'avaient connues les Républicains au moment des élections européennes. Est-ce qu'avec cette crise du Covid-19, les Républicains vont mieux? Comment se porte l'opposition de droite? Est-ce que la poutre travaille encore, comme dirait Édouard Philippe?
Ce qui est certain, c'est que les formations politiques qui avaient dominé la vie politique, Parti Socialiste et Républicain, n'ont pas encore terminé leur cure de convalescence. Ça, c'est clair. Mais on voit que les élections municipales, et Frédéric Michaud a raison, elles ne sont toujours pas terminées, mais on voit quand même que le premier tour des élections municipales leur a donné un peu, on va dire, leur a réconforté un peu le moral, et notamment a montré qu'à travers les élus locaux, le réseau des élus locaux, ces formations politiques, notamment les Républicains, qui avaient tellement engrangé de succès en 2014, disposaient encore d'atouts à faire valoir dans la vie politique française. Et Emmanuel Macron, ça a été dit tout à l'heure, avait multiplié les signes en direction de certaines personnalités de cette formation politique. Ce qui est certain, c'est que du point de vue des Républicains et de ce qui tient à cœur à cette formation politique et à ses électeurs, par exemple la réduction des dépenses publiques, la réduction du nombre de fonctionnaires, la réduction des impôts, donc un peu des fondamentaux, on va dire, d'un parti de centre-droit, sans aucun doute, dans la perspective de 2002, cette formation politique et ses électeurs seront amenés à faire un bilan d'expérience d'Emmanuel Macron. Et je crois qu'il y a là un point qui est tout à fait essentiel et qui pourrait éventuellement redonner envie à certains électeurs de cette famille politique de revenir, on va dire, à la maison. Donc il y aura là quelque chose qui est incontestablement à suivre, parce que la crise du Covid-19 s'est traduite par un niveau de dépenses publiques supplémentaires extrêmement important, et que la problématique des 2 ou 3 prochaines années va être la gestion budgétaire de cette situation.
Ce qui nous amène donc au Premier ministre et au sujet dont il n'aime pas qu'on parle, mais comme nous avons mauvais esprit, nous autres journalistes, nous allons donc en parler. La rumeur parisienne dit qu'il y a de l'eau dans le gaz entre la relation entre Matignon et l'Élysée. Expliquez-nous ça, Jérémy Marot.
Alors oui, c'est effectivement la rumeur. Il y a quand même factuellement assez peu d'éléments tangibles pour le montrer. Des preuves éclatantes de divorce, on n'en voit pas. Il faut bien comprendre la nature de la relation entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. C'est une loyauté absolue d'Édouard Philippe, tout du moins une loyauté publique absolue d'Édouard Philippe, qui sait qu'il doit tout à Emmanuel Macron, et à commencer par son poste. Les rencontres entre eux se font dans le secret absolu. Ils sont généralement 4. C'est Emmanuel Macron et son directeur de cabinet Alexis Kohler, et Édouard Philippe et son directeur de cabinet Benoît Ribadeau-Dumas. Donc en réalité, les frictions que l'on décrit sont d'abord des frictions d'entourage, et c'est des luttes d'influence que se livrent les entourages des uns et des autres pour infléchir les politiques. Après, les observateurs ont noté qu'en temps de crise, c'est le cas là, récemment lors du coronavirus, ce fut le cas aussi pendant les Gilets jaunes, il y a des petites inflexions, des différences, des petites inflexions sémantiques chez l'un et chez l'autre, et l'on en déduit qu'il y a de l'eau dans le gaz. Pour l'heure, en réalité, je pense qu'Édouard Philippe est solidement arrimé à son poste. Emmanuel Macron a non seulement assez peu de raisons de le changer, et en plus, peu de personnel politique sur lesquels s'appuyer. Le banc de touche, c'est toujours le même problème en Macronie. Le banc de touche, il est faible derrière. Donc, est-ce que c'est des simples tensions temporaires, des divergences d'appréciation, différentes appréciations? Ça ressemble plutôt à ça, plutôt qu'à une vraie fracture, une vraie rupture au sommet de l'exécutif.
Il y a simplement quand même un élément nouveau, Frédéric Michaud, c'est que dans les sondages, Édouard Philippe fait mieux qu'Emmanuel Macron. Il creuse l'écart, on peut dire ça comme ça, puisqu'on va filer la métaphore sportive qu'employait à l'instant Jérémy Marot. Qu'est-ce qui plaît davantage chez Édouard Philippe?
Alors d'abord, je ne dirais pas qu'il y a un découplage dans les sondages entre le président de la République et le Premier ministre. Et puis il faut regarder de quel type de sondage nous parlons. Dans les sondages de popularité, cote de popularité de l'exécutif, la cote du Premier ministre est légèrement au-dessus de celle du chef de l'État, 3 à 4 points, mais les deux cotes sont négatives. On a entre 39 et 40% des Français qui sont satisfaits de l'un et de l'autre. On a des décalages d'image en ce qui concerne, par exemple, les baromètres d'opinion. Est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion de chacun du président de la République et du Premier ministre? Et là, depuis quelques jours, c'est vrai que nous notons une amélioration assez nette de l'image du Premier ministre, qui est peut-être liée à plusieurs éléments. La sortie du confinement, la sortie de crise, avec un confinement qui a été bien géré, une crise sanitaire qui a été bien gérée, un déconfinement qui se passe plutôt bien. En tout cas, c'est ce que nous avons mesuré. Aujourd'hui, nous avons publié un sondage qui montrait que les Français étaient plutôt satisfait de la façon dont les choses se passaient en ce qui concerne la reprise de l'activité économique. Ils sont un peu plus mitigés en ce qui concerne les transports en commun et évidemment en ce qui concerne la question des écoles. Mais globalement, le déconfinement dans les perceptions des Français est plutôt bien vu, et tout cela s'est porté au crédit du Premier ministre. Mais pour autant, il n'y a pas un décalage comme nous avons pu en mesurer par le passé entre, par exemple, Manuel Valls et François Hollande, surtout entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, par exemple, avec un Premier ministre qui était extrêmement bien vu, qui bénéficiait de perceptions très favorables dans l'opinion publique, et un président de la République qui, au contraire, lui, était perçu de manière très négative. Nous ne sommes absolument pas dans cette configuration. Les deux images restent encore très, très liées, très imbriquées.
Bruno Cotterêts, un Premier ministre plus populaire qu'un président, comme les exemples que vient de citer Frédéric Michaud, en quoi est-ce que c'est problématique? Il n'est plus un bouclier, c'est plus lui qui prend les coups?
Ça, c'est le modèle, effectivement, de la Ve République. Le Premier ministre est là pour prendre les coups et protéger l'image et la stature surplombante du chef de l'État. Alors, si le décalage de popularité entre les deux est très accentué, ou si ce décalage était un décalage idéologique, avec un Premier ministre qui serait supporté, par exemple, soutenu par la droite, et un président soutenu par la gauche, donc une sorte de situation de cohabitation, là, ça deviendrait très, très, très problématique. Par contre, dans le cas de figure qui nous importe aujourd'hui, entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, moi non plus, je ne ressens pas le besoin impérieux pour Emmanuel Macron de changer de Premier ministre pour assurer sa survie à lui, d'une certaine manière, appuyer sur le siège éjectable Premier ministre pour essayer lui de s'en sortir. Le remplacement du Premier ministre serait une opération extrêmement compliquée à faire. Il faut quand même bien voir que le futur Premier ministre, c'est celui qui, dans quelques semaines maximum, va commencer à s'atteler à la loi de finances qui va être votée cet automne. Et cette loi de finances, dans le contexte budgétaire que va connaître la France, demande tout, sauf un nouveau venu ou un amateur qui n'a pas reçu le feu jusqu'à présent de l'exercice de la décision au plus haut niveau. Il faut se rendre compte que nous allons vers un exercice budgétaire, sans aucun doute, avec son lot de mauvaises nouvelles.
Jérémy Marot, Emmanuel Macron a besoin d'Édouard Philippe et de son image de sérieux dont on parlait, au-delà des différences sémantiques que vous évoquiez.
Oui, je repensais à ce bon mot d'Édouard Philippe au début du quinquennat qui disait « quand on a deux prénoms, c'est difficile de se faire un nom ». J'ai l'impression qu'il a réussi justement à se faire un nom avec cette crise. Il dégage, ce que je trouve intéressant, c'est que avant le début du quinquennat, c'était quelqu'un qui était relativement inconnu et pour lequel on n'a jamais instruit, contrairement à d'autres ministres, un procès en incompétence. Il a assez vite gagné. On a instruit d'autres procès, Édouard Philippe, et notamment celui de représenter un courant trop libéral, trop à droite, dans une Macronie qui était plutôt ancrée au centre-gauche. Mais finalement, on ne l'a jamais taxé d'incompétence ou de ne pas avoir su se mettre dans le costume, à la hauteur du poste. Et finalement, au bout de 3 ans d'exercice, puisqu'on est en fait quasiment son 3e anniversaire à Matignon, à 1 ou 2 jours près, il a réussi à prendre cette épaisseur-là. Et finalement, c'est peut-être ça qui va lui permettre aussi de durer, outre le fait qu'il tienne bien évidemment tout un pan de la droite grâce à lui et grâce à ce qu'il incarne, ce qu'il porte, c'est-à-dire cette droite modérée, jupéiste, puisque c'est de là d'où il vient. Et on l'a vu avec ce réseau aussi d'élus locaux qui est assez précieux dans une Macronie qui a assez peu d'ancrage. Donc tout ça constitue un peu ses assurances-vie au poste.
Le président de la République a annoncé dans son allocution du 13 avril une nouvelle phase de son mandat, la suspension de toutes les réformes en cours, dont celle des retraites, qui était largement voulue par Édouard Philippe. Est-ce qu'Édouard Philippe peut incarner une nouvelle phase? Est-ce qu'il faut incarner une nouvelle politique forcément pour que ça marche, Frédéric Michaud?
Alors ça, justement, précisément, c'est l'un des arguments qui pourrait inciter le chef de l'État à changer de Premier ministre. Les changements de Premier ministre sous la Ve République marquent des inflexions, des tournants, une rupture volontaire, un message de transformation qui est adressé à l'opinion publique. Alors là, le chef de l'État semble vouloir ouvrir une nouvelle période, ouvrir une nouvelle séquence du quinquennat. Ça avait déjà d'ailleurs été le cas après la crise des Gilets jaunes et on n'avait pas vraiment vu d'effet ou de grandes nouveautés ou d'inflexion fondamentale par rapport à la séquence précédente dans les fêtes. Donc on va voir comment les choses se déroulent cette fois-ci. Mais ça peut évidemment plutôt pour maintenir en poste Édouard Philippe. D'abord, ça a été dit, il n'y a pas de remplaçant. Il y en a peut-être un seul qui pourrait cocher le critère qui a été judicieusement mis en avant par Bruno Cotterêts, le critère de la technicité économique. C'est précisément le ministre de l'économie, c'est Bruno Le Maire qui pourrait incarner tout ça. Mais son profil est strictement le même que celui d'Édouard Philippe, de Zénarque, centre-droit, jupéiste, chiraquien, villepiniste pour l'un, jupéiste pour l'autre, c'est le clone d'Édouard Philippe d'une certaine manière. Donc ça n'apporterait pas grand-chose au chef de l'État. Et dans l'histoire de la Ve République, on a souvent vu des premiers ministres changer après des crises. Là, les exemples sont nombreux, mais après des crises qui se terminent bien pour l'exécutif, pour le président de la République, il y a très peu de changements. Il n'y en a qu'un seul, en réalité, hein, à ma connaissance, c'est le départ de Georges Pompidou après mai 68, mais c'était à sa demande. C'est lui qui a souhaité partir. Alors après, il a regretté d'avoir émis ce souhait, mais c'est lui qui a souhaité partir. Donc on ne voit pas vraiment pourquoi le chef de l'État changerait de Premier ministre dans les semaines qui viennent, sauf peut-être s'il était battu lors de l'élection municipale au Havre.
Bruno Cotterêts, sur cette nécessité ou pas d'incarner une nouvelle phase, de nouvelles idées, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Est-ce que c'est absolument nécessaire ?
Je suis d'abord très dubitatif.
L'existence, en fait, dans les faits, de la nouvelle phase, c'est ce que vous voulez dire ?
Oui, je suis très dubitatif. Pour Emmanuel Macron, après 3 ans de mandat, et expliquer aux Français qu'ils changent de logiciel, mais tout ceci peut avoir des effets explosifs sur lui. Alors ça veut dire qu'au bout de 3 ans, le chef de l'État n'avait pas encore compris, ne savait pas où il allait. Vous voyez, je suis très, très dubitatif. Il y a des effets de communication qui sont importants. On va faire un plan pour l'hôpital, ça c'est évident, mais Emmanuel Macron ne va pas nous expliquer qu'il s'était trompé depuis 3 ans. Donc il va au contraire essayer de nous montrer que c'est parce qu'il avait raison depuis 3 ans qu'il peut enclencher une nouvelle phase. Mais moi, je n'appelle pas vraiment ça une nouvelle orientation. Et donc si on met un Premier ministre qui, lui, part sur l'idée qu'il est là pour développer un nouveau programme, voyons, on se retrouve dans un dispositif qui, d'un seul coup, devient peut-être encore plus complexe.
Jérémy Marot, sur cette nouvelle phase, on a eu cette intervention du 13 avril. On attend des faits maintenant ou comment vous l'attendez ?
On attend sûrement des faits, mais la question, c'est avec quelle marge de manœuvre budgétaire ? Parce qu'on l'a dit, les volumes qui ont été dépensés pendant la crise et pour faire face à la crise, et dont le bien fondé, je crois, n'est pas tellement remis en cause à droite comme à gauche, mais ces volumes-là ont été importants. Il y a un endettement qui est massif. Tous les chiffres, tous les compteurs sont au rouge de ce point de vue-là. Et les marges de manœuvre, puisqu'on fait le reproche finalement à Emmanuel Macron de ne pas avoir accumulé suffisamment de marqueurs sociaux, mais ce qui va être en mesure d'ouvrir les vannes de la dépense sociale encore plus ces prochains mois jusqu'à la fin du quinquennat, j'en suis franchement pas sûr. Il y aura peut-être sûrement un plan pour l'hôpital comme cela vient d'être dit, mais au-delà, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour incarner réellement ce changement de cap, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment les coudées franches budgétairement parlant. Alors un budget massif, un budget de relance massif a été annoncé au point de vue européen. Qu'est-ce que cela donnera dans sa déclinaison française ? C'est à voir. Mais je pense qu'il devra se contenter sûrement de marqueurs symboliques d'ici la fin du quinquennat plutôt que de réformes massives et claires d'un point de vue budgétaire.
Oui, Bruno Cotterêts, en quelques secondes, les réformes, c'est terminé. Elles étaient suspendues par Emmanuel Macron. Est-ce qu'elles sont enterrées ?
Enterré, je ne sais pas. Peut-être qu'il proposera sur la réforme des retraites que ça soit validé par sa réélection s'il était réélu en 2022. On voit mal aujourd'hui cette réforme emblématique repartir. Il faut quand même se rappeler que cette réforme, elle touchait le personnel hospitalier aussi, elle touchait les enseignants, deux catégories dont l'exécutif n'a cessé de vanter la contribution exceptionnelle à l'effort nationale. Et donc, on voit très, très mal comment tout ça peut repartir. Et la conférence sur le financement des retraites est au point mort.
Merci Bruno Cotterêts, merci Frédéric Michaud et merci Jérémy Marot d'avoir participé à cette émission. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit.
Autour de la question.